Donc bienvenue dans notre troisième partie du podcast Bilan de 2013, dans laquelle nous avons parlé un peu des enjeux du cinéma asiatique, un peu les thématiques dans différents pays. Et on avait évoqué juste avant la problématique du fait qu'il y avait une construction occidentale de certaines cinématographies qui ne représentaient pas forcément la réalité cinématographique des pays. Je ne sais pas si quelqu'un veut rebondir là-dessus.
Non, mais en fait, par rapport à la réalité qu'on perçoit au travers des productions cinématographiques asiatiques, je pense que l'exemple des... alors là, pour le coup, ça va pas être du cinéma, ça va être de la série télé. L'exemple des dramas coréens est assez significatif de la perception qu'ont les jeunes, entre guillemets, enfin le public des dramas, de la vie en Corée. C'est-à-dire que dans les dramas coréens, en fait, tout le monde est beau, tout le monde est gentil, plus ou moins. C'est un petit peu le monde de Walt Disney, où il y a toujours une belle histoire d'amour, etc., etc. Et c'est vrai que c'est une perception un petit peu faussée de la société coréenne, telle qu'elle n'est vraiment.
Mais est-ce que l'inverse n'est pas vrai dans la cinématographie telle qu'on l'a eue avec toute la vague de néo-polar, où la société coréenne semblait super
violent,
dark
très
et
violent.
Extrêmement violente. Donc là aussi, il y a une construction qui va des deux...
Je pense que la vérité est entre les deux, quoi.
Ouais, comme dans tous les pays. Ouais.
Voilà, et que c'est vrai que les films qu'on voit en France, les films coréens, quand on prend l'exemple de la Corée, les films qu'on voit en France sont assez critiques vis-à-vis de la société. Et je me rappelle d'une année, on était au festival coréen et on voyait que des films assez glauques, quoi, où il y avait une jeunesse un peu mal et en perte de repère et qui étaient complètement oppressés par la société, etc. Et voilà, quand on voit les dramas où c'est le pays des bisounours, je pense qu'il y a un juste milieu à trouver, quoi. Mais nous, en tant qu'occidental, en tant que public français, quand on voit ces deux extrêmes, eh ben, on a tendance à assimiler le pays. Après, voilà, les jeunes qui regardent les dramas, ils pensent pas, ils pensent que la Corée, c'est comme ça, quoi.
Après, ce qui est intéressant, c'est que les dramas sont plutôt pour un marché intérieur en Corée, comme au Japon, d'ailleurs.
Ouais,
donc, c'est une image aussi rêvée du pays tel qu'il aimerait se voir. Et est-ce qu'il n'y a pas justement aussi, dans beaucoup de cinémas asiatiques, notamment sur le cinéma chinois, le cinéma japonais, le cinéma coréen, particulièrement le cinéma indien, une dichotomie en fait entre un marché qui est intérieur avec des films qui sortent généralement jamais du pays et un marché qui est beaucoup plus restreint avec quelques cinéastes qui font des films pour les festivals et pour être vus à l'étranger.
Les films pourraient être différents pour être vus à l'étranger parce que les étrangers n'ont pas les mêmes attentes. Les mêmes perceptions. Je tiens même la Shaw Brothers remontait ses films, changeait la musique pour les distribuer ailleurs que chez eux. Il y a toujours eu une volonté de montrer autre chose aux étrangers pour vendre leurs films finalement.
Ah mais oui, et puis c'est toujours le cas maintenant. On a bien vu avec Snowpiercer, par exemple, pour les États-Unis où les frères Weinstein essayent de négocier. Je ne sais pas où c'en est d'ailleurs, mais ils ont négocié pour... Le film est toujours pas sorti.
Ouais, mais ça, c'est un problème aussi des Weinstein, c'est que comme ils en ont rien à foutre des films qu'ils distribuent, ils les achètent et ils en font n'importe quoi. En pensant, j'avais discuté avec Bustillo pour Livid, qui était attiré de savoir ce que les Ricains, donc les Weinstein, comptaient faire de son film. Hein.
Enfin, on voit que c'est une problématique qui est toujours d'actualité, quoi.
De toute façon. Et l'exemple de Snowpiercer est assez intéressant parce qu'on a vu. Effectivement, il y a plein de films coréens qui, notamment les comédies dont on parlait, tous ces films du milieu en fait, qui sortent jamais. Alors qu'il y a les cinéastes qui marchent très bien en Corée, parce qu'il me semble que Snowpiercer c'était 6 millions d'entrées cette année, donc sur le marché coréen, donc bon, c'est un succès énorme, mais qui aussi vise le marché international. On en parlait lors du podcast de Snowpiercer justement, de ces réalisateurs. Coréens qui vont faire leurs films aux États-Unis ou avec des capitaux étrangers et donc là qui visent aussi un autre marché mais de manière beaucoup plus volontaire en fait. Enfin, ils font pas que des films pour les Coréens, ils font des films pour le monde entier.
Oui, et puis on voit que même à l'intérieur de l'Asie, il y a de plus en plus de films qui sont enfin, qui regroupe des productions japonaises, coréennes, chinoises. Enfin, on a vu avec The Agent, par exemple, où il y a je sais pas combien de pays qui sont représentés dans le film, ou même
Ou Black
Black
Dawn,
qu'on vient de, qu'on a vu cet
Black
après-midi,
qui était avec
Okino Taiyo,
coproduction
coréenne et japonaise.
Et japonaise.
Voilà, et on voit qu'il y a aussi à l'intérieur de l'Asie même une espèce de production qui se fait entre les pays.
Mais The Agent est une production exclusivement, exclusivement coréenne, hein. Ils ont pris des gens ailleurs, mais c'est pas.
Oui, oui, pas oui, au niveau de la production, mais au niveau de. Au niveau du casting et au niveau de.
Ah oui, le casting, ouais. Oui, mais c'est parce qu'en fait, le réalisateur a visité Berlin et s'est dit, tiens, ce serait génial de faire mon film ici. Donc il a embauché des gens et tout, mais les capitaux sont absolument pas européens.
Oui,
quoi.
Mais il y a quand même une ouverture vers l'international à faire quelque chose. Déjà d'avoir choisi Berlin comme ville de bah
après, c'est
décor principal.
C'est l'influence de, voilà, voilà. C'est l'influence occidentale.
Oui, t'as l'influence occidentale.
L'influence américaine qui devient de plus en plus forte et. Et les auteurs ont envie, d'une part, quand on voit la nouvelle vague indienne, de plus en plus d'imiter Hollywood. Et les autres auteurs, comme Park Chan-wook ou Kim Ji-woon, qui sont partis carrément aux États-Unis tenter leur aventure. Voilà, y a une volonté quand même, d'ouverture. Et le chat Victor en fait des siennes. Ouais, voilà,
il est en train de faire ses griffes sur mes vinyles. Hein.
L'horreur. Et donc voilà, je sais plus ce que je disais, mais mais c'est à peu près ça, quoi.
Ouais. Je suis assez d'accord. Cela dit, je reviens à The Agent. Pour moi, le choix de Berlin est plus symbolique qu'une volonté de s'ouvrir à l'international. Le fait de mettre une guerre entre la Corée du Nord et du Sud en plein milieu d'une ville qui a été réunie depuis quelques années.
Oui,
il y a
aussi.
Mais voilà, c'est comme
mais
c'est symbolique, mais c'est aussi exotique, quoi. Voilà, c'est comme nous quand y a un film occidental qui sort, mais qui prend. Voilà, c'est comme le par exemple Zulu qui est sorti il y a pas longtemps avec Denzel Washington, avec Forest Whitaker et Orlando Bloom, qui se situe en Afrique du Sud. Il prend le contexte sud-africain, mais finalement il en fait c'est un thriller des plus classiques. Et je pense que voilà, le choix de Berlin, c'est exactement la même chose. C'est une sorte d'exotisme pour
ouais,
coréen, quoi.
Le film vise pas forcément le marché international.
Non, du tout.
The Berlin Film. Et c'est vrai qu'il y a cette moment, on parlait de The Thieves tout à l'heure, cette impression qui vise d'abord le marché interne. Et après, les pays aux alentours, c'est-à-dire Hong Kong, la Chine, la Corée, le Japon, enfin, le public peut être visé dans un niveau d'abord local, hein, avant que ça soit international. Et un autre élément marquant, à mon avis, de 2013, c'est que les énormes succès, à part les coproductions, justement, comme Snowpiercer, dans lequel il y a des capitaux internationaux, mais certains énormes succès, notamment chinois, ne vont peut-être sans doute jamais être montrés en France ou peut-être jamais sortir en France. Il y a l'exemple de Young Detective D de Tsuyar qui est pourtant un nom qu'on connaît en Occident. Detective D est sorti. Je le vois mal avoir un succès.
Et qui va sortir en France.
C'est comme, il va sortir en France, pardon.
Il va sortir,
bien sûr.
On peut prendre aussi l'exemple de Outrage. Outrage qui est sorti, qui était à Cannes, carrément, alors que la suite. Peut-être va sortir, je sais pas, ça sortir en 2014 aussi.
Je pense que ça va sortir en DVD, quitte à nous quand même. Non.
Alors, je reprends exactement la même démonstration, mais pas avec Young Detective Lee, mais avec Outrage Blanc, qui est le plus gros succès de Kitano, et pourtant qui a un nom connu, et c'est un film qui a très bien marché au Japon, et qui pourtant ne va pas, pour l'instant, ne trouve pas de distributeur en France. Hein.
Alors que le premier était à Cannes, quoi. Enfin, c'est
le premier était à Cannes, mais s'est fait descendre à Cannes.
Oui, comme tous les films d'action un peu asiatiques qui sont prêts. On a eu Mickey cette année. C'est vraiment les styles de films qui sont pas du tout faits pour l'esprit de Cannes, quoi. Donc, ça veut pas dire forcément que ce sont des mauvais films, c'est surtout que c'est les gens là-bas qui vont voir les films et qui vont voir je sais pas combien de films par jour ne sont pas du tout conditionnés pour voir ces films-là à ce moment-là, quoi. Donc après, et ça arrive d'ailleurs des journalistes qui revoient le film plus tard et qui disent ah, finalement c'est pas si mal.
Écoute, pour Shield of Straw, aka Warren Otate, ça n'a pas été le cas.
Non,
pour
moi, là oui, c'est l'exception qui confirme la règle.
Est-ce qu'il y a d'autres choses que vous voulez rajouter sur cette thématique, sur les sorts ou les thématiques que vous avez pu voir dans les différentes cinématographies en Asie en 2013?
Alors, moi, en fait, c'est plus général sur le cinéma chinois qui, le cinéma chinois intérieur qui prend de plus en plus d'ampleur, en fait, parce que ils arrivent quand même, le box-office chinois, en fait, ils ont dépassé, là, il y a pas si longtemps, il y a quelques jours, les 3,29 milliards de dollars de recettes au box-office. Donc, c'est plus 16% par rapport à l'année dernière. Donc c'est assez énorme. Et on a le plus gros succès du pays, c'est Journey to the West, qui a fait quand même 204 millions de dollars au box-office local.
Normal.
Donc on arrive quand même à des chiffres assez gigantesques, ce qui permet justement au cinéma chinois de réaliser des gros films, vraiment, vraiment de mettre du budget sur les effets spéciaux, sur ce genre de choses. Dont un film dont je parlerai tout à l'heure. Et les budgets maintenant des films asiatiques et chinois en particulier sont de plus en plus importants. Et justement, ça, ils se rapprochent vraiment des productions US.
Mais alors pourquoi il y a quand même cette difficulté à exporter ces films à gros budget?
Parce qu'en fait, c'est ce qu'on a dit tout à l'heure sur les remakes. C'est parce que ce soit pour un Américain ou pour un Français, on met un acteur américain ou un acteur asiatique. Le public lambda, le grand public, sera toujours plus ouvert vers un film avec des acteurs américains
Ouais,
qu'avec des
des
acteurs
têtes
asiatiques.
connues.
C'est bien pour ça que dans Snowpiercer, on a des grosses têtes d'affiche US. C'est pas qu'une question de capitaux, c'est aussi parce que il faut ramener du monde en salle en dehors du pays d'origine du film. Et pour ça, les têtes d'affiche étrangères sont là.
D'ailleurs, ça c'est une autre tendance qu'on a pu voir en 2013, c'est que l'Asie était très à la mode à Hollywood. On l'a vu sur les gros films de l'été qui étaient Pacific Rim, Wolverine, le combat de l'immortel, qui se passait au Japon, l'autre se passait à Hong Kong avec des éléments de culture japonais. Il y a des remakes qui vont arriver, enfin, là ça va aller de Godzilla à Hellboy. Donc l'Asie est quand même très très présente dans le cinéma très très grand public hollywoodien.
Elle est présente, mais comme le disait Alex, c'est vraiment, c'est voilà, il est présent, mais on l'adapte à une vision occidentale et on gomme le maximum du côté asiatique, quoi. Voilà, c'est sinon c'est
Bah,
irregardable, quoi.
il y a ce côté exotique qui reste quand même, hein. C'est
Old Boy, tu l'as vu, toi, le côté exotique?
alors pas dans les remakes, mais justement plutôt dans Godzilla, enfin Godzilla qui arrive en
La
2014,
moitié
ou
des gens qui
dans
vont voir
Pacific
Godzilla, ils
Rim.
penseront que c'est une suite à Roland Emmerich et non pas.
Exactement, ouais, je suis d'accord avec toi, Yannick. Mais
Ça
par
arrive
contre,
encore, hein.
il a l'air, mais il a
Il a
l'air
l'air
très,
dix
il a
fois
l'air
mieux
très
quand
bien,
même,
ouais,
hein.
il a
Il a
l'air
l'air
très
dix
bien.
fois mieux
Non, mais non, je
que
parlais pas
Godzilla
de
Rim.
l'éventuelle qualité du film, je l'attends aussi.
Ouais.
Je veux dire, pour le public lambda, pour lui, Godzilla, c'est Roland Emmerich, c'est
Oui,
pas du
alors que
tout
c'est pas du
une
tout.
grosse bestiole qui vient du Japon, quoi.
Ouais, il y a un peu de
Bon,
ça.
avec un peu de chance quand même, vu
Je
qu'il
sais
date de
pas.
98, la plupart des gens l'auront oublié, je l'espère.
On peut pas
Pour
oublier, on peut pas
oublier.
oublier le Jean Reno, on peut pas oublier tout ça, quoi.
Il y a une ressortie en Blu-ray
Ah,
là
si, si.
d'ailleurs. Tu es aussi
On peut
là.
essayer en tout cas d'oublier.
Un Roland Emmerich, ça s'oublie pas, quoi. Jean Reno,
Hélas.
le chewing-gum. Voilà.
Et dans le même état d'esprit, on a vu également, alors ça c'est peut-être au niveau culturel plus intéressant, non pas des remakes, mais des coproductions qui se passaient vraiment dans les pays dans lesquels ça a été tourné. Je pense à Only God Forgives de Nicolas Winding Refn, à Metromania aussi, donc étaient des films qui étaient faits par des Britanniques ou des Danois ou des Européens, on va dire, qui venaient
Ou The Act of Killing aussi, d'ailleurs.
ou The Act of Killing, ouais, qui est aussi réalisé par quelqu'un qui ne vient pas donc du pays et qui va s'immerger dans la culture là-bas pour faire un film dans ce pays-là avec des capitaux qui viennent d'un peu partout d'ailleurs.
Et surtout que sur Only God Forgives de Refn, ce qui je trouve qu'il va encore plus loin que le simple exotisme, c'est que dans le film, c'est vraiment l'occidental qui est montré comme ce qui a corrompu la Thaïlande en fait, et que le véritable héros le véritable héros purificateur du film, c'est le Thaïlandais avec son sabre qui tranche tout le monde, quoi.
Donc, et qui est le vrai personnage du film d'ailleurs.
Enfin,
c'est le vrai héros du film. Et,
je trouve que cette approche-là est vraiment intéressante et assez inédite finalement dans le cinéma occidental.
Ouais, donc moi je voudrais rajouter un titre de film dans ce que vous citez là, parce que même si le film en question est plus raté que réussi, c'est quand même fait par un Français, donc c'est Bangkok Renaissance de Jean-Marc Minéo, qui part vraiment sur ce principe-là, puisque c'est donc un réalisateur français qui a voulu faire un film à Bangkok, avec un film d'action, etc. Bon, c'est pas très réussi, l'acteur principal est mauvais comme pas permis, mais voilà, il y a une
tentative,
il y a quelque chose quand même.
Parce que Jean-Marc Mignot, quand même, va maintenant, après avoir attaqué la Thaïlande, il va quand même réaliser le premier film d'action algérien. Et ça, quand même, on l'attend avec Smaïn et Lori en plus.
Donc, avec Smaïn et Lori, oui. Alors, donc, non, ça... on l'attend avec une impression. Mais en plus, Bangkok Renaissance, moi, j'ai passé un moment sympa devant le film parce que les séquences d'action sont pas trop mal. On sent qu'il y a quelque chose. Le problème, c'est que l'acteur principal est inexpressif comme pas permis. C'est John Woo, il sait se battre, mais il faut surtout pas lui demander de faire de l'acting. Et on sent aussi que c'est le premier film de Jean-Marc Minéo, donc il y a beaucoup de maladresse. Mais j'ai par contre été vraiment agréablement surpris par la fraîcheur du film. Et surtout, il n'abordait pas du tout le côté Bangkok, etc. Il ne l'aborde pas du tout de manière hypocrite ou quoi. On sentait qu'il aimait l'endroit, qu'il aimait l'ambiance, qu'il avait envie de faire quelque chose de... là-dedans, quoi. Et rien que pour ça, je trouve que ce film doit être cité et défendu.
Alors, bravo. Moi, par contre, j'ai rencontré le réalisateur Jean-Marc Minéo, qui est très sympa, et sa démarche sur Bangkok Renaissance est vraiment sincère. C'est-à-dire que c'est quelqu'un qui a un passé important dans les combats d'arts martiaux, et vraiment... il est vraiment, c'est vraiment un amoureux du cinéma asiatique. C'est vraiment, il fait vraiment ça. Le film, il l'a vraiment fait parce qu'il aime ça. C'est vraiment une passion pour lui. Enfin, c'est pas quelque chose. C'est pas une histoire d'argent. C'est pas.
Ah oui, mais ça se sentait vraiment. C'est justement ce que j'essayais d'exprimer.
C'est vraiment sincère, en fait, vraiment. Alors c'est vrai que moi, la première fois que j'ai vu le film, malheureusement, c'était dans une version. Dans la version qui est sortie en France, c'est-à-dire en doublé en français, donc c'était un petit peu dur pour mes oreilles. Et après, ensuite, je l'ai revu en version originale avec les sous-titres, maintenant qu'il est disponible en DVD, et c'est beaucoup mieux passé.
Il y a une vraie franchise, une vraie honnêteté dans la démarche. C'est pas du tout comme certains réalisateurs qui abordent, justement, on parlait de Roland Emmerich avec Godzilla, qui a toujours crié sur tous les toits, qui détestait Godzilla. Là, au contraire, on sent l'amour du cinéma d'action, l'amour de Bangkok, etc. Et ça, c'est vraiment, vraiment quelque chose que je trouve intéressant à défendre.
Bon, on retiendra que tu as dit du bien d'un film quand même ce soir, qui est Bangkok Renaissance, donc Yannick. C'est un... C'est donc à noter. Je sais pas s'il y a des... Alors peut-être des... Alex, tu me parlais d'un film, notamment, enfin ouais, peut-être qu'on va pouvoir faire un tour de table sur des films que vous avez vus en 2013 et qui ne sortiront jamais en France, ce qui est regrettable ou pas, parfois.
Tout à fait. Alors moi, en fait, il y a un film qui sortira jamais en France, jamais en festival, jamais rien du tout. C'est une comédie thaïlandaise. Ça s'appelle Pi Mak. P-E-E-M-A-K, et c'est vraiment assez drôle, en fait. C'est une histoire de... Alors, je suis le spécialiste pour tuer n'importe quel film une fois que je raconte un synopsis, donc ça va être la même chose pour celui-là. C'est un mélange de...
Essayez de le voir et de le télécharger donc avant, et puis revenez ensuite.
En fait, c'est une comédie romantique avec des histoires de fantômes, ce genre de choses. Il y a beaucoup d'humour thaïlandais, c'est très bien, c'est assez loufoque, je vous le conseille, voilà.
Je ne sais pas si vous avez d'autres films, en tout cas, que vous conseillez, ou vous aimeriez voir en France, enfin, à part, notamment beaucoup de films qu'on a abordé finalement ce soir. Enfin, il y a le Kitano qui mériterait effectivement une sortie.
Moi, c'est le dernier. C'est le dernier Briante Mendoza,
Taiwong, ouais.
Qu'on avait vu à Deauville et qui m'avait beaucoup marqué par sa simplicité et.
Non, puis c'est sa vision de la religion musulmane très assez différente de ce qu'on.
Ouais, assez inédite, ouais, assez belle et. Et il y a quelque chose qui se dégage de ce film. Il y a Mendoza, il n'y a pas beaucoup de réalisateurs qui arrivent comme lui à cerner un peu le quotidien des gens comme ça, d'être aussi près des gens, mais sans vraiment les juger, juste il est là et il se balade un peu dans ses maisons, dans ses décors un peu
colorés.
Ouais, sur pilotis un peu les maisons comme ça. C'est assez impressionnant. Il y a des séquences comme une séquence de mariage au coucher du soleil assez sublime et vraiment je pense qu'il peut sortir c'est Mendoza quand même, j'espère beaucoup qu'il va sortir en tout cas et c'est vraiment un très 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 beau film.
En parlant de Deauville Azay, il y a aussi celui qui a eu le prix de la compétition de Deauville Azay 2013, le grand prix, c'est Heidi. D'ailleurs, on parlait du cinéma indien, d'ailleurs, qui essaie de sortir de cette vision un peu bollywoodienne qu'a le grand public du cinéma indien.
Je suis moins d'accord. Hein. Enfin, pour le coup, les Bollywood ne sortent pas en France.
Non, mais
enfin,
je veux dire, c'est pas que le grand public français, par exemple, on lui parle de cinéma indien, il pense tout de suite à Bollywood.
Sans connaître.
C'est justement parce qu'ils connaissent pas. Ils connaissent pas Bollywood et ils connaissent pas le reste du cinéma indien. Non, mais par exemple, Heidi, c'est vraiment une espèce de vision très très réaliste aussi, hein. Un peu à la Briante Mendoza justement de l'Inde de Bombay, donc cette espèce de vie tentaculaire, une métropole tentaculaire en Inde. Le pitch est très simple, c'est un ouvrier qui vient chez une femme pour réparer je sais plus quoi et d'un seul coup il s'évanouit, il a un malaise. Et donc, elle ne sait pas quoi faire. Et donc, à partir de ce pitch-là, il va faire un film sur cette ville tentaculaire et sur cette question d'identité de la personne qu'on ne connaît pas et comment faire pour aider une personne qu'on ne connaît pas, dont on n'a pas d'informations et qui, d'un seul coup, a un problème. Et donc, il y a une espèce de film qui se développe comme ça autour des liens qui doivent se créer avec des gens qui ne se connaissent pas et d'entraide comme ça. Donc c'est passionnant et c'est vraiment un bon film qui mériterait aussi d'une sortie en salle.
Bah, ce qu'on va faire, c'est qu'on va enchaîner en fait sur quelques titres qu'on attend en 2014 dans notre quatrième et dernière partie de ce podcast bilan. À tout de suite.